Guerre et paix. Deuxième partie, chapitre 2, scène 8. Le vieux comte Rostov avait renoncé à ses fonctions de maréchal de la noblesse du district parce qu'elle l'entraînait à trop de fortes dépenses. Et cependant, l'état de ses finances ne s'améliorait guère. Nicolas et Natacha surprenaient souvent leurs parents, causant à voix basse et d'un air agité, de la vente de leur hôtel à Moscou ou du bien qu'ils avaient dans les environs. Rentré dans la vie privée, le comte ne donnait plus ni fêtes ni banquets. Aussi, la vie à Outradnoye était-elle devenue plus calme que les années précédentes. Pourtant, ni la maison ni les dépendances ne désemplissaient, et il y avait chaque jour une vingtaine de personnes à table. C'étaient des habitués, des amis, des familiers, qui faisaient presque partie de la famille, ou qui du moins semblaient ne pouvoir plus s'en détacher. Entre autres, un musicien nommé Dimmler, avec sa femme, le maître de danse Yogel avec sa famille, la vieille demoiselle Beloff, l'instituteur de Petia, l'ancienne gouvernante des demoiselles, et d'autres encore qui trouvaient tout simple de vivre chez le comte plutôt que chez eux. Aussi, bien qu'il n'y eût plus de grandes réunions, la vie allait son train comme par le passé, et ni le maître ni la maîtresse de la maison n'auraient pu se la représenter autrement. Le train de chasse avait été augmenté par Nicolas. On nourrissait toujours 50 chevaux à l'écurie, on tenait toujours 15 cochers, on se faisait toujours des cadeaux de grand prix aux jours de fête, et ces jours-là se terminaient, selon l'antique usage, par un dîner monstre, auquel on invitait tout le voisinage. Le comte jouait comme d'habitude au Boston et au whist, en laissant invariablement voir toutes ses cartes à ses amis, qui s'arrogeait le droit de faire sa partie et de l'alléger, sans scrupule aucun, de quelques centaines de roubles qui constituaient le plus clair de ses revenus. Le comte marchait à l'aveuglette au milieu du réseau embrouillé de ses embarras pécuniaires, s'efforçant de se les dissimuler, ne parvenant qu'à les accroître, et ne se sentant ni la patience ni le courage nécessaire pour en délier un à un tous les nœuds. Le cœur aimant de la comtesse pressentait la ruine de ses enfants, sans en accuser son mari, trop âgé malheureusement pour se réformer, et cherchait les moyens de remédier à leur désastreuse situation. Il n'en existait, à son point de vue féminin, qu'un seul, le mariage de Nicolas avec une riche héritière. Elle se cramponnait à cette dernière planche de salut. Mais si son fils refusait le parti qu'elle avait à lui proposer, tout espoir de relever leur fortune serait définitivement perdu. La personne qu'elle avait en vue était la fille de gens parfaitement honorables, que les Rostov connaissaient depuis l'enfance. La jeune Julie Karaguine, qui, par suite de la mort de son second frère, était devenue subitement une très riche héritière. La comtesse écrivit directement à Madame Karaguine pour lui demander si cette union lui convenait, et en reçut une réponse des plus favorables. Madame Karaguine invitait même Nicolas à venir les voir à Moscou, afin que Julie pût se décider en toute liberté. Nicolas avait plus d'une fois entendu sa mère exprimer devant lui, avec des larmes dans les yeux, son vif désir de le voir marié. Le sort de ses deux filles étant désormais assuré, l'accomplissement de ce dernier désir adoucirait les quelques jours qui lui restaient à vivre, disait-elle, en faisant de constantes allusions à une charmante jeune fille qu'elle lui destinait. Un jour enfin, elle lui parla sans détour des vertus de Julie et lui conseilla, aux approches de Noël, d'aller passer quelque temps à Moscou. Nicolas, qui avait deviné sans peine pourquoi elle le lui conseillait, amena un jour sa mère à s'en expliquer franchement avec lui. Elle ne lui cacha pas qu'elle espérait voir leur fortune relevée et redorée par son mariage avec sa chère Julie.
Ainsi donc, maman, si j'aimais une jeune fille sans dot, vous auriez exigé le sacrifice de mon amour et de mon honneur pour me faire faire un mariage d'argent ?
Oh non, tu ne m'as pas compris, lui répondit-elle. ne sachant comment justifier son désir. Je ne cherche que ton bonheur. Et, sentant que ce n'était pas là son seul et véritable motif, et qu'elle faisait fausse route, elle fondit en larmes.
Ne pleurez pas, maman. Dites-moi simplement que vous le désirez, et vous savez bien que je donnerai ma vie pour que vous ayez la paix, et que je sacrifierai tout jusqu'à mon sentiment.
Mais la comtesse ne l'entendait point ainsi. Elle ne demandait pas de sacrifice. Elle se serait plutôt sacrifiée elle-même, si la chose avait été possible. « N'en parlons plus. Tu ne m'as pas comprise, » dit-elle en essuyant ses larmes.
« Comment a-t-elle pu me proposer ce mariage ?»
pensait Nicolas.
« Elle croit donc que je n'aime pas Sonia parce que Sonia est pauvre. Et cependant, je serais mille fois plus heureux avec elle qu'avec une poupée comme Julie. »
Il resta à la campagne. Sa mère ne revint plus sur ce sujet, mais, voyant, non sans douleur et sans irritation, l'intimité croissante qui s'établissait entre son fils et Sonia, elle ne pouvait s'empêcher de tourmenter Sonia à tout propos et de lui dire « vous et ma chère ». Parfois, elle se reprochait ses continuels coups d'épingle. Elle en voulait à sa pauvre petite nièce de les recevoir avec une douceur et une humilité sans égale, de lui témoigner en toute occasion un dévouement plein de reconnaissance, et d'aimer Nicolas d'un amour si fidèle et si désintéressé qu'on ne pouvait s'empêcher de l'admirer. On reçut à cette époque une lettre du prince André, datée de Rome. C'était la quatrième depuis son départ. Il aurait été depuis longtemps en route pour la Russie, disait-il, si les chaleurs qui avaient rouvert sa blessure ne l'obligeaient à remettre son retour au premier jour de janvier. Natacha, bien qu'elle fût éprise de son fiancé et que cet amour même eût calmé ses rêveries, ne s'en laissait pas moins aller à toutes les impressions joyeuses de la vie. Mais vers la fin du quatrième mois après leur séparation, elle tomba dans une profonde mélancolie et s'y abandonna tout entière. Elle pleurait sur son malheureux sort. Elle pleurait sur le temps qui s'écoulait ainsi, sans profit pour elle, tandis qu'elle sentait dans son cœur un invincible besoin d'aimer et de se faire aimer. Le congé de Nicolas allait expirer, et l'approche de son départ ajoutait encore à la tristesse de ce morne intérieur.